Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Les apparences suffisent largement à faire un monde, écrivait Jean Anouilh. Le monde de notre invité de ce soir semble facile à caricaturer. Une moustache, une pancarte, quelques slogans, quelques réponses pavloviennes à des questions mille fois posées. Et vous obtenez le portrait robot de l'homme le plus populaire, mais pas forcément le plus aimé du syndicalisme français. Lui, qui respecte toujours scrupuleusement les itinéraires des cortèges qu'il organise, acceptera-t-il de faire quelques détours avec nous ce soir? On va le savoir tout de suite, puisque Philippe Martinez, le boss de la CGT, est dans Hors-Piste.
Hors-Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! On continue! On ne lâche rien.
L'homme était inconnu du grand public. À 53 ans, il incarne désormais le nouveau visage de la CGT.
Nous, à la CGT, nous n'estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas
le marché. Satisfaction.
Ah bon? Parce que t'as le texte, Maurice?
Non, mais 15 ans de CGT, je connais, merci. Ouais.
Philippe Martinez a gravi les échelons un par un. Technicien à l'usine Renault-Billancourt, il devient délégué syndical central et combat la fermeture de l'usine Vilvoorde en 1997.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Mais de quoi?
Du nouveau patron?
Oh là là, moi je m'en fous complètement. Je ne suis pas là pour juger le patronat, mais pour sanctionner ses excès. Vous êtes cadre supérieur, moi je suis délégué syndical. Alors s'il vous faut la porte, c'est embêtant pour vous, mais s'il me faut la porte, c'est embêtant pour lui.
Le problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de... Plus il y a de syndicats, moins il y a de syndiqués. Il faudrait qu'on fasse l'inverse. Moins de syndicats et plus de syndiqués.
Plus personne n'y comprend rien. Il n'y a plus d'autorité dans le pays. Et la seule chose qui est vraie, c'est que c'est la CGT qui menace et la CGT auquel le gouvernement obéit.
J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève?
Qu'est-ce que c'est que cette façon d'écouter le peuple? Entre le Premier ministre et Delevoye, ça doit faire 22 ou 23 fois, oui. Donc, tous les ministres qui disent la CGT politique de la chaise vide, ils n'ont pas dû regarder la bonne chaise.
Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi.
Camarade, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois. À cela, je dirais, rappelez-vous l'essentiel. Camarades, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire.
À Paris, quand vient le mois de mai, quand le printemps renaît, tremble le patronat.
Bonsoir Philippe Martinez.
Bonsoir.
Bienvenue dans Hors Piste sur France Inter. Vous êtes sans doute le personnage public le plus facile à caricaturer, hein, je le disais en vous présentant, et le plus difficile à raconter parce qu'en fait on ne sait pas grand chose de vous, parce qu'à part des articles sur les luttes que vous menez, qui sont nombreuses, on ne trouve pas grand chose. Est-ce que vous aimez qu'on parle de vous?
Pas spécialement, j'aime qu'on parle de la CGT. Et évidemment, quand on parle de la CGT, mais comme dans les autres syndicats, on parle du secrétaire général, du président, enfin celui qui est le porte-parole. Donc voilà, c'est pas une responsabilité pour se faire briller, c'est pas un poste people, c'est un porte-parole d'un grand syndicat de France.
Mais c'est un job exposé. Aujourd'hui, tout est people.
Bah justement, moins on est people, mieux on s'occupe de ce pourquoi on a été élu, c'est-à-dire la défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses. Et donc, moi j'aime pas beaucoup ce côté anecdotique de la fonction, on n'est pas là pour ça. Et d'ailleurs, j'évite toute médiatisation extra-syndicale.
N'empêche que j'imagine que dans la rue on vous connaît, on vous reconnaît.
Oui.
Ça vous plaît ça ou pas?
Bah, c'est toujours sympathique parce que ça veut dire que la CGT, souvent critiquée, raillée, etc., elle est incontournable dans le paysage. Et puis, il m'arrive, comme d'autres, d'avoir des occupations personnelles, aller faire mes courses, par exemple, et aller défendre les salariés du petit supermarché où je vais faire mes courses, c'est marrant.
Même quand vous faites vos courses, vous allez défendre le salarié?
Ça prouve que le syndicat est utile. Ouais. Quand ils me demandent des choses, je leur réponds. Puis parfois, on arrive à faire gagner des salariés.
Où est-ce que vous mettez la frontière, Philippe Martinez, entre ce que vous donnez au syndicalisme, beaucoup de votre temps, toute votre activité, ce que vous donnez à la vie publique et ce qui n'appartient qu'à vous?
Difficile, c'est très difficile, mais il faut se garder des moments pour sa famille, pour ses enfants, pour des amis qui m'engueulent souvent, d'ailleurs, et mes enfants, et ma femme.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Parfois j'ai des petits messages en disant c'est bien de te voir à la télé, mais enfin en vrai c'est mieux, quoi, par exemple. Des amis, des vieux copains d'enfance qui me disent bon, quand est-ce qu'on se voit, quoi.
Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous pensez dans ces cas-là? Vous dites vous êtes gentil, j'ai autre chose à faire,
c'est des remarques qui vous font remettre les pieds sur terre et en disant bon, il faut aussi consacrer du temps à autre chose que la responsabilité que tu as.
Vous avez deux enfants, c'est ça?
C'est ça.
Ils ont quel âge aujourd'hui? On a le droit de le dire ou pas?
Faut les laisser tranquilles. Les occupations de leur père les intéressent, mais faut aussi les protéger.
Vous êtes quel genre de père, vous?
Je suis un père assez réservé, mais je suis sûr que mes enfants, à chaque fois qu'ils en ont besoin, ils m'appellent et j'arrive en général, pas en courant, mais assez vite.
Et à la maison, tout se décide en assemblée générale ou pas chez les Martinez?
Comme ils habitent plus à la maison, je peux décider. C'est le seul endroit où je peux décider tout seul.
Donc le pouvoir autoritaire de Martinez, c'est pas une légende.
Le pouvoir autoritaire de Martinez. Dire que Martinez a de l'autorité, mais il est pas autoritaire. Voilà, ouais. Il faut aussi de temps en temps faire preuve d'autorité parce que on peut pas passer notre temps à faire des commentaires et à pas décider. Vous voyez.
C'était une boutade, hein. Vous remettez tout de suite le costume là.
Non, pas du tout. Moi, vous savez, j'ai un peu d'humour quand même.
Ouais. Ils sont militants, vos enfants, ou pas?
Pas des vrais militants.
Ils sont quand même pas de droite.
Non, ils sont pas de droite. Ils ont. On se forge tous un peu de culture dans sa famille, dans son histoire. Alors parfois, par réaction, on fait l'opposé de ce qu'on a entendu pendant des années à la maison. Mais non, ils ont des valeurs. En tout cas, j'ai essayé de leur inculquer des valeurs. Ils ont des valeurs et ils supportent pas l'injustice. Et ils le montrent très régulièrement.
On est tous issus de nos origines, de nos parents, de nos proches. Votre enfance, vous en gardez quel souvenir, vous, Philippe Martinez?
Super enfance, dans une résidence, parce qu'on appelle ça comme ça, où mes parents sont arrivés avec plein d'autres parents, donc c'était leur premier achat, donc ils avaient tous le même âge à peu près, donc les enfants avaient tous le même âge, donc ça veut dire que j'ai des vieux copains et des vieilles copines que j'allais dire que j'ai vu naître, en tout cas avec qui on a grandi jusqu'au collège, quoi. Après bon, les orientations scolaires, mais et des gens que je revois, alors pas autant que je voudrais, mais que je revois. Donc une enfance heureuse, c'est les bêtises sur la pelouse.
C'était en région parisienne, hein, tout ça.
Oui, c'était en l'ouest parisien.
Ouais. Votre papa était ouvrier, notamment dans la plasturgie, et votre maman femme de ménage. En général, quand on est petit, on rêve d'être pompier, policier, pilote de Formule 1. Vous vouliez quoi? Vous vouliez déjà être syndicaliste et défendre les autres?
Non, c'est pas... Le syndicalisme, c'est pas une vocation, c'est la vie qui fait ça. Non, moi, j'ai dû faire comme beaucoup d'enfants. J'ai dû vouloir être architecte, vétérinaire, puis après, sûrement footballeur professionnel, parce que j'ai joué assez longtemps au foot. Voilà.
Numéro 10, hein, c'est ça, vous jouez, vous?
Non, j'ai démarré à l'arrière, et puis j'ai fini... plus on vieillit, plus on a l'impression que le terrain s'agrandit. J'ai fini au milieu du terrain, plutôt dans le rond central, pour essayer de donner des passes et en courant le moins possible.
Vous vous souvenez de votre première revendication quand vous étiez gamin?
Gamin, colère. J'ai dû en faire beaucoup, donc ça doit être dans les gènes. Mais non, j'ai pas à souvenir. sûrement qu'il devait y avoir souvent des colères comme tous les gosses quand on s'amuse bien dehors avec les potes et que on a la maman ou le papa qui se met à la fenêtre en disant bon c'est l'heure d'aller c'est l'heure de manger ça. Là j'ai dû avoir des revendications assez souvent de ce point de vue là.
Non il n'en est pas question, c'est ça.
Ouais, peut-être que je le disais plus poliment parce que l'autorité c'est respecté aussi.
Et la lutte, la résistance, ce sentiment que vous avez de ce besoin de lutter contre ce que vous considérez être des injustices, c'est quelque chose que vous avez appris par éducation, ça ?
Combattre l'injustice, oui, ça se transmet de génération en génération. Je suis issu d'une famille, alors pas que mes parents, mais une famille qui a connu la résistance. Certains ont été déportés, il y a eu la guerre d'Espagne. Il y a une partie de ma famille qui a souffert du franquisme. Et donc, aussi, comme je m'appelle Martinez, mes aînés ont subi aussi le racisme, parce que le racisme, c'est pas nouveau. Hein. Toutes les générations...
À l'époque, c'était contre les Espagnols, les Italiens, les Portugais.
On appelait ça les pingouins, il y a eu les Ritals, etc. Et donc, ça aussi, c'est des valeurs qui se transmettent, je pense. Et donc j'ai hérité de ça et j'en suis très fier.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez de vous dire que vous réglez en quelque sorte les comptes de vos parents ?
Non. C'est aujourd'hui, j'essaye à mon niveau avec beaucoup de mes camarades de combattre l'injustice, combattre le racisme, combattre les discriminations.
Philippe Martinez, je voudrais vous faire écouter ça.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la
terre. Ça vous fait sourire, ça ?
Très belle chanson.
Ouais.
Là, qui est internationale et internationaliste.
Ouais. Mais on va la couper parce que c'est trop facile pour vous. Vous allez me dire que c'est votre hymne, c'est ça, c'est votre idéal.
Non, c'est quelque chose qui symbolise depuis des générations des luttes, des conquis sociaux, des mouvements internationalistes. Parce que c'est une chanson qui est connue, je m'en suis rendu compte, dans le monde entier, quelle que soit la langue, il y a une version de l'international.
Vous connaissez les paroles de l'international par cœur ?
Non.
Non ?
Pas par cœur.
Pas par cœur. Et écoutez ça plutôt. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez la Marseillaise ?
Le symbole de notre belle République avec toutes les qualités de cette République qu'il faut garder. Ouais, c'est l'égalité, la fraternité, la liberté. Parfois, moi, je rajoute la solidarité. Mmh. Voilà, c'est l'hymne national et ça symbolise beaucoup de choses.
Vous faites partie de ceux à qui ça colle des frissons ? Et pas seulement dans les matchs de foot ?
Oui, y compris dans les congrès de la CGT, quand on la chante, ça colle des frissons.
Et là, vous connaissez les paroles ?
Pas tous les couplets, mais comme pour l'international, je connais les paroles, oui. Ouais. Et je la chante au moins le premier couplet.
Comme presque tout le monde. Vous avez, Philippe Martinez, l'image d'un type en colère, souvent. Quand on ne vous connaît pas, on se dit, lui, il est fâché. Voilà. Est-ce qu'elle est exacte, cette image ? Est-ce que vous êtes un type en colère ?
Alors, faut se mettre d'accord sur le terme colère. Oui, je suis quelqu'un qui est.
On peut faire un Grenelle de la colère, si vous voulez.
Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, il faut être en colère parce que est-ce qu'on peut être indifférent aux injustices, au racisme quand on croise. Enfin, moi, je fais beaucoup de déplacements, je rencontre beaucoup de salariés. Je pense aux aides à domicile qui me disent on vit avec 600 ou 700 euros par mois. Est-ce qu'on peut ne pas être en colère quand on entend ça ? Après, il y a cette colère légitime et puis l'image que certains essayent de nous coller à la peau. Vous l'avez dit, je suis souvent caricaturé. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai de l'humour. Mais ça entretient une image du bougon qui n'arrive jamais à sourire. En plus, avec la moustache, on voit rarement mon sourire. Oui, mais moi, je revendique cette colère.
C'est pas fatigant de vivre tout le temps en colère comme ça ? C'est pas lourd à porter ?
Mais je ne suis pas tout le temps en colère. Mais je revendique d'être en colère quand on est confronté à des choses qui sont insupportables. C'est pour ça qu'il faut être en colère. Il y a plein de gens en colère dans ce pays.
Vous venez dire que vous étiez un type qui a de l'humour. Dans votre entourage, on dit aussi que vous êtes très sensible. Est-ce que c'est vrai ?
Sûrement, si on le dit.
est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne d'en parler ou de...
Oui, parce que c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose à soi. Mais oui, il faut être sensible. Enfin, là aussi, il faut avoir de la sensibilité. Il faut savoir s'émouvoir pour des choses graves. Donc oui, j'ai...
Et qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Est-ce que vous pleurez au cinéma, par exemple, devant un film ? Est-ce que...
Il peut m'arriver d'avoir... les larmes qui approchent les paupières. Oui, il y a des choses qui sont assez des films qui peuvent vous rappeler des moments de votre vie, par exemple. Je cite souvent Les Femmes du Sixième Étage, je sais pas si vous l'avez vu, parce que c'est, vous voyez, quand c'est un film sur les bonnes espagnoles, avec celles qui vont l'Huma Dimanche à la porte de l'église, celles qui... Ouais, voilà, ça me rappelle une partie de mon enfance, parce que les copines de ma mère, etc. Donc oui, si c'est ça être sensible, oui, c'est ce genre de sensibilité qui... et puis il y a d'autres choses qui sont plus personnelles. Bon.
L'image qu'on a de Philippe Martinez, c'est quelqu'un, quand on ne vous connaît pas, qui, s'il sent les larmes arriver, va vite les essuyer. Vous les laissez couler, en fait, ou pas?
Sûrement que parfois, il y en a une qui coule, ouais.
Ouais. La dernière, vous en souvenez?
Non.
Si c'est pas trop personnel?
Non, je m'en souviens, pas. Je pense que, quand mon père est décédé, je pense que là, je les ai laissés couler.
Et alors, à contrario, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie?
Tout.
Tout?
Tout, ouais. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, peut-on rire de tout? Oui, mais peut-être pas avec tout le monde, mais... Moi, je pense que l'humour, c'est essentiel, ouais. Y compris vis-à-vis de soi-même. Je vous l'ai dit, les caricatures sur moi, il y en a quelques...
Elles vous font marrer ou pas? Parce que souvent, les caricatures font marrer quand c'est sur les autres, quand c'est sur soi.
Non, moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. J'ai gardé une de Charlie Hebdo qui est extraordinaire. Enfin, vous la regarderez, c'est Martinez en tutu avec des poils qui dépassent de partout et pas que les poils qui dépassent. Et c'est le titre, c'est « Il nous fait rêver ». Bon, ça me fait mourir de rire.
Ouais.
Ouais. Après, quand la caricature est fine, qu'elle a du sens, ça me fait marrer. Après, il y a des caricatures grossières qui attaquent, c'est moins drôle. J'ai remarqué que certains, pour illustrer des propos désagréables sur moi... prennent souvent des photos où je fais la gueule. Je me rappelle d'un hebdomadaire affiché dans tout Paris.
Le Point, sans doute.
Le Point, certainement.
Ouais.
Ça me fait pas rire.
Ça vous blesse?
J'ai l'habitude. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui nous aiment pas à la CGT, mais je pense par exemple à mes enfants qui sont obligés de se coltiner cette image dès qu'ils sortent dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'excessif, quoi.
Vous avez évoqué votre moustache tout à l'heure. Alors évidemment, on va parler de votre moustache. Et pour ouvrir ce chapitre essentiel de la vie de Philippe Martinez, on va écouter ce que disait Jean Rochefort de la sienne de moustache.
Je l'ai gardée parce que quand je l'enlève, il m'est arrivé de l'enlever deux ou trois fois, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip.
Parce que j'ai l'impression d'être à poil.
Oui, j'ai un espace en fait. Très drôle. J'ai un espace énorme entre les lèvres supérieures et je me trouve obscène sans moustache.
Vous avez le même problème que Jean Rochefort ou pas?
Non, mais c'est très drôle. Jean Rochefort était quelqu'un de très drôle, très fin. J'ai pas le même problème, mais j'ai peur que si je l'enlève, tout le monde se préoccupe de ma santé, qu'est-ce qui se passe. Ça fait partie du personnage. Voilà.
Mais... Elle vient d'où, cette moustache?
Je pense pas, j'en suis sûr. J'ai l'habitude de me raser moins souvent quand je suis en vacances l'été et j'ai dû faire un essai et ça a dû faire marrer tout le monde et j'ai dû dire je la garde. Voilà, et puis depuis je l'ai pas enlevé.
Mais c'est quoi, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans?
Non, ça doit faire, je pense, une dizaine d'années.
Une dizaine d'années?
Ouais, à peine.
Alors vous savez que vous avez un point commun avec Brad Pitt?
Alors là, je ne le savais pas.
Ça saute pas aux yeux.
Ah non, il y a la moustache d'ailleurs.
Brad Pitt, il a dit, au moment où le film Inglourious Basterds de Tarantino sortait, « Mon but est de remettre les moustaches à la mode. Je pense qu'elles ne sont pas assez respectées. Les moustaches, c'est une déclaration politique. » Elle est politique, votre moustache?
Je crois pas, non.
Non.
Je crois pas, non.
Elle est apolitique?
Sûrement. Enfin, elle est une décoration qui conforte ceux qui disent que je ris jamais. Puisqu'on voit pas le sourire sous la moustache.
Mais on l'entend quand même à la voix. C'est l'avantage de la radio. Sans faire de la psychologie à deux balles, Philippe Martinez, il y a quelque chose à cacher derrière cette moustache ou pas?
Non.
Non.
Rien du tout.
Elle est légère, en fait.
Voilà, oui. Ouais. Il n'y a pas de message subliminal derrière cette moustache.
Mais vous avez employé le mot personnage tout à l'heure. Vous en avez fait une sorte d'instrument marketing. Ça fait partie du...
C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai entendu le début de l'émission. C'est la première chose dont on parle quand on parle de moi, l'homme à la moustache.
Vous le savez.
Oui, d'accord. Donc, mais c'est pas moi qui ai entretenu cette image. Je veux dire, certains l'entretiennent. Mais c'est vrai que c'est un vrai signe de reconnaissance dans la rue. Alors en ce moment, avec les masques, c'est plus compliqué, mais c'est un vrai signe de reconnaissance. Quand je suis moins bien rasé, les gens parfois hésitent en disant est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est... Parce qu'il n'est pas barbu d'habitude, enfin vous voyez.
J'ai un souvenir d'interview avec vous, vous étiez venu en studio avec un masque et la moustache dessinée sur le masque.
Oui, c'était un cadeau de ma fille.
C'était un cadeau, enfin, vous voyez comme quoi, on en revient...
Comme quoi, on a de l'humour dans la famille, vous voyez.
Absolument. Et le fait d'avoir un peu la tête du méchant dans les dessins animés, non, ça vous pose pas un problème?
Non, pas du tout. Enfin, je vous le répète, c'est... Enfin, derrière le fait de cultiver, certains cultivent le dé, il y aurait les gentils et les méchants, et moi je suis toujours dans le camp des méchants, enfin moi et la CGT, parce que derrière moi c'est la CGT, ça permet d'éviter d'aller au fond des choses sur ce que fait notre syndicalisme, qu'est-ce que c'est d'être syndicaliste, etc. On classe, mais c'est une habitude, maintenant on classe, et puis une fois qu'on est classé, pour sortir du classeur, c'est dur.
Vous connaissez tous les surnoms dont vous êtes affublé ou pas ?
Moi, j'en connais un certain nombre. Hein. Alors, il y en a qui emploient certains médias, Général Tapioca, je sais pas d'où ça sort, ouais. Jamais on m'appelle comme ça. Par contre, Pépito, oui.
Pépito, oui.
Pépito.
Astérix aussi, pareil.
Astérix, ça arrive aussi. Pépito, c'est celui qui est le plus utilisé pour parler de moi.
Et vous l'aimez bien, celui-là ?
J'adore.
Pourquoi ?
Parce que c'est le côté mexicain, basané, vous savez, avec le grand chapeau.
C'est le Pépito de la pub. Aïe Pépito, c'est ça hein?
Ouais, c'est ouais, ça, ouais, je c'est pense. Ça. Mais c'est, je crois que le premier qui m'a appelé comme ça, c'était Yvan Le Bolloc.
Ouais.
Et donc c'est resté, il a dû dire ça dans un concert et c'est resté.
Alors on n'est pas dans une émission dédiée à la mode, hein, je vous rassure, d'ailleurs j'y serais vraiment pas à ma place. Sans vouloir vous relooker, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, Philippe Martinez. Donc je vais vous le donner, le voilà.
Merci.
Je vous laisse le découvrir. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une cravate.
C'est une cravate. Elle
belle
vous
cravate,
plaît ?
Hein.
Elle vous plaît ?
Ah ouais, elle est très belle.
Ouais,
hein.
Ouais. Mais elle risque de se sentir bien seule dans votre penderie, non ? J'ai l'impression.
Non, il y en a d'autres dans ma penderie. Ouais,
vous mettez des cravates ?
Je ne mets pratiquement jamais de cravate. Quand j'en mets une, c'est évidemment un événement. Mais j'en mets, je crois que la dernière fois que j'en ai mis une, c'est 3-4 ans pour le mariage d'un proche. Et donc ça fait rire tout le monde.
C'est un marqueur social, la cravate ? C'est pour ça que vous... Non, en fait, on a cherché avec l'équipe d'Orpiste des photos de vous en cravate. On dit, mais c'est incroyable, ce mec ne met jamais de cravate. Et
c'est exact. Ouais. Non, c'est pas... Je supporte pas d'avoir le... J'aime bien avoir un bouton ouvert à la chemise. Et donc, c'est plus pour mon confort personnel. Et puis, quand... Peut-être, parce que je suis un peu taquin, quand on peut bousculer certains codes. Je suis assez fier, par exemple, de quand on va à l'Élysée, d'être le seul autour de la table de ne pas avoir de cravate. Voilà, c'est...
Donc, elle a un petit sens, quand même.
De temps en temps. Vous savez que je suis taquin, donc j'aime bien...
On vous l'a fait remarquer, ça, déjà, ou pas, quand vous allez dans des rendez-vous, que vous avez, le protocole, vous savez, Monsieur Martinez, quand on va voir un chef d'État...
La première fois que j'ai dû aller à l'Élysée, on m'a dit « Fais attention, il faut que tu mettes une cravate ». J'y étais sans cravate et personne ne m'a fait de remarque, donc maintenant je continue.
C'était avec qui la première fois ?
C'était pour les vœux de François Hollande, ça devait être en 2015.
En 2015. On va marquer une première pause musicale dans Hors Piste avec le titre que vous avez choisi, c'est « Santé » de Stromae, et il faut bien écouter les paroles.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À frotter, frotter. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
France Inter, hors piste.
Santé Stromae, nouveau titre de Stromae qui lève son verre à ceux qui n'en ont pas. Philippe Martinez est dans Hors Piste avec nous sur France Inter ce soir. C'est une chanson évidemment sur les salariés de première ligne. Décidément, même quand on vous demande de choisir une chanson, vous êtes en lutte.
Bah, c'est une très belle chanson, mais en même temps, c'est une chanson qui dit plein de choses pour le retour de Stromae qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Je trouve qu'il a cette capacité à parler de sujets graves en chanson. La chanson, c'est aussi des messages, donc c'est parler de ceux qu'on a qualifiés d'invisibles, c'est atroce d'ailleurs comme qualificatif, je trouve que c'est bien.
Les invisibles qu'on a applaudis tous les soirs à 20h pendant des semaines et des semaines, il nous reste quoi tout ça?
Ils sont devenus invisibles. Ils sont devenus invisibles, ils restent mal payés, ils ont des conditions de travail difficiles. Je vous parlais des aides à domicile par exemple, voilà, c'est la même galère qu'avant. C'est grave quoi.
Ça n'a pas un côté désespérant, parce que les gens qui applaudissaient à la fenêtre, ils étaient sincères.
Mais je ne doute pas de cette sincérité. Oui. Et je pense qu'ils le sont encore. C'est ceux qu'en ont fait beaucoup, ministres et autres, sur ces fameux invisibles et qui aujourd'hui les ont oubliés, quoi. Oui. Voilà, c'est ça qui est grave. Et donc c'est bien qu'un chanteur, qui avec une chanson à texte, qui mette en avant que, enfin voilà, lui les a pas oubliés, par exemple.
J'ai l'impression que ça vous remue, ce sujet.
Oui, parce que. Vous savez, j'aime bien écouter quand je croise des salariés, des travailleurs, des travailleuses, des chômeurs. J'aime bien écouter. Il y a des histoires entre guillemets qui vous remuent les tripes, comme on dit. Ouais. On peut pas rester indifférent, quoi. Il faut savoir s'indigner et plus que s'indigner, même s'engager, se révolter, quoi.
Ouais. Vous allez vous indigner jusqu'à quand? Vous savez quand est-ce que vous vous lâcherez tout ça ou pas?
M'indigner, je pense que, enfin, en tout cas, j'espère que je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, parce que il faut garder, enfin, voilà, cette capacité de s'indigner, il faut la garder toute sa vie, quoi. Voilà, si c'était ça votre question.
Non,
voilà
ma question, réponse. C'est de savoir si vous serez candidat à votre propre succession en 2023.
Vous savez, je crois que c'est pas d'actualité, cette question. Enfin, je veux dire. Non, vous confondez avec les présidentielles.
Sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle.
C'est bien, vous suivez l'actualité.
J'essaye quand même un peu, même si on s'en détache dans Hors Piste.
Mais... Non, mais moi je trouve que, enfin, le sujet d'actualité, c'est comment on fait pour justement arranger le quotidien des gens. Voilà, c'est ça l'actualité. Ils en ont rien à faire. Déjà sur les présidentielles, je trouve que moi ceux que je croise m'en parlent pas beaucoup. Alors le futur secrétaire général.
Il y a un décalage entre le regard politique et médiatique sur la présidentielle et le regard des vrais gens de la vraie vie.
Ah oui, c'est évident.
En quoi?
C'est savoir traiter leur quotidien, quoi. Je veux dire, ils en ont marre, les gens. Sûrement, et moi le premier, d'entendre des politiques qui disent « Votez pour moi, votre vie va changer ». En plus, ils ont tellement fait d'expérience de voter pour quelqu'un sans que leur vie change. Donc, et la situation est tellement grave que c'est leur quotidien. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour arranger la situation? On ne va pas attendre le mois d'avril pour augmenter les salaires, pour...
Voilà, il y a des propositions, surtout, on ne va pas faire la campagne maintenant, mais il y a des propositions. Le pouvoir d'achat, c'est quand même un des sujets qui semble émerger.
Ça, c'est bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ce que demandent les gens, d'ailleurs.
Vous votez ou pas, vous?
Oui, je vote.
Toujours?
Je vote toujours, oui. Ouais. Toujours. Il y a tellement de citoyens dans le monde qui sont privés de ce droit que rien que par respect pour eux, je pense qu'il faut voter.
Vous serez candidat à votre propre succession en mars 2023
ou pas ? Je vous répète que ce n'est pas d'actualité. Enfin, cette question, je ne me la pose pas le matin en me rasant, quand je me rase,
ouais. Vous voyez. Mais donc, vous y pensez. On est obligé d'être langue de bois quand on est patron d'un syndicat.
Je suis rarement langue de bois. Ouais. Je pense que c'est pas l'actualité, c'est pas mon sujet, c'est pas mon.
Alors, est-ce que vous avez pris votre décision?
Je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais partie de ceux qui, dès que j'ai pris une responsabilité, quelle que soit, je pensais à ma succession.
Ouais.
Donc, ma succession, j'y pense depuis que je suis secrétaire général de la CGT. Mmh. Voilà.
Reste à savoir quand. Reste à connaître la date.
Voilà.
Mmh. Vous savez que je suis quand même. Hein.
C'est bien.
J'ai une question qui me taraude, Philippe Martinez. Où est-ce que vous avez appris à compter?
Je sais pas, mais mon père a dû m'y aider, ma grand-mère, et puis à l'école.
Ça n'a pas été très efficace. Hein. Question qui est valable d'ailleurs pour vous et pour les policiers.
Allez-y.
Le comptage des manifs, c'est quand même du grand n'importe quoi.
Ah, ça fait partie peut-être d'un peu de folklore, ouais.
Ouais. Parce que vous y croyez quand il y a 50 000 personnes et que vous annoncez 500 000 ou 1 million ou pas ?
Oh, on fait jamais ça.
Non. Il y a souvent un rapport de 1 à 10 ou de...
Oui, c'est la police qui compte pas. C'est bien.
Ben oui. Ça fait partie du folklore.
On exagère un peu, mais je trouve que la police et le ministère de l'Intérieur exagèrent beaucoup plus.
Ouais, ça c'est normal, c'est toujours le gendarme et le voleur.
Non, vous savez, il y a quelques compteurs avec un P du côté des forces de l'ordre qui nous disent, oui là on a un peu exagéré, vous êtes un peu plus que ça, mais voilà.
Quand il est venu dans Hors Piste, Laurent Berger, le patron de la CFDT, pour le coup, nous a dit que lui, il adorait pas manifester. Vous, on vous voit tout le temps, partout, en tête de cortège, hein, vous êtes à tous les rendez-vous. Vous ressentez quoi quand vous êtes là, en tête de cortège comme ça?
Bah, c'est la vitrine de tous ceux qui sont derrière.
Ouais.
C'est aussi montrer que on n'est pas content, que on fait d'autres propositions, etc. Donc c'est pas voilà. Mais c'est vrai que je fais plus de manifestations que Laurent Berger.
Ça vous plaît, vous aimez ça?
J'aime ça. Montrer qu'on est nombreux à proposer un certain nombre de choses. Oui, c'est important. Mais il ne faut pas exagérer non plus, je ne manifeste pas tous les jours. Hein.
Vous avez 61 ans aujourd'hui?
Non, 60.
Vous avez 60 ans, donc vous aurez bientôt 61 ans.
Dans quelques mois,
le
oui.
Le 1er avril.
Exactement, c'est pas une blague.
Vous savez qui d'autre est né un 1er avril ou pas?
J'en connais d'autres, oui. Je crois que Cécile Duflo, par exemple, est née le 1er avril.
Vincent Bolloré?
Non. Ouais. Bah, comme quoi je m'intéresse moins à Vincent Bolloré que... une nouvelle chroniqueuse de France Inter.
Vous pourriez aller dîner avec Vincent Bolloré?
Bon, si c'est pour négocier 10 000 créations d'emplois, oui, sûrement. Ouais. Ouais.
Mais pour le plaisir?
Ah non, je crois pas, non.
Par curiosité?
Quelle curiosité? Enfin, je veux dire, on vit pas dans le même monde.
Ouais.
Voilà. Donc, par contre, oui, qu'un syndicaliste rencontre un patron, j'allais dire, c'est tous les jours comme ça. Parce que on négocie dans toutes les boîtes tous les jours, on fait grève et puis au bout d'un moment, bah faut quand même atterrir, donc il faut négocier. Bah avec qui on négocie, soit avec le patron, soit avec le gouvernement. Donc, mais manger pour le plaisir avec un patron du CAC 40, je pense pas. Non. D'ailleurs, je vois pas où serait le plaisir.
Oui. C'est là qu'on va dire que vous êtes un peu sectaire quand même, non?
Pourquoi?
On n'est pas dans le même monde, mais votre monde il est complètement étanche. Enfin, en fait, il y a un seul monde.
Non, mais mon monde il est vachement large. Hein.
Ouais.
Si on enlève les 40 plus gros patrons de France, vous voyez, ça fait beaucoup de monde,
du monde
avec qui je peux manger. Vous voyez.
Un peu de monde, mais oui. Il y a peut-être des gens bien parmi les 40 plus gros patrons de France.
Peut-être. Ouais. Mais ce que je constate, c'est dans la politique qu'ils mettent en œuvre dans leurs entreprises, c'est beaucoup de dégâts sociaux. Hein. C'est j'étais tout à l'heure, enfin non, c'était vendredi ou jeudi, j'étais avec des salariés de Carrefour. Pour satisfaire les actionnaires, bah, c'est des dizaines, centaines de suppressions d'emplois. Il y a des vies derrière les grands patrons. Et des fois, j'ai l'impression qu'ils n'y pensent pas.
Il y a aussi des grands patrons qui font travailler des gens, qui font tourner des boîtes, qui font tourner l'économie. C'est l'ennemi, le grand patron, encore aujourd'hui? On est dans cette vision
Non. Je connais plein de petits patrons qui sont attachés à leurs salariés, etc. Je les croise, je visite des boîtes. Quand on est attaché à sa boîte, on respecte ses salariés. La catégorie, petite catégorie, de multimillionnaires, on parle pour certains des plus grosses fortunes du monde. Cette fortune, il la construit sur la détresse des autres et des choses graves. Parfois, je parle de licenciement, mais on pourrait parler du non-respect, enfin de l'attaque contre la planète. Vous voyez, j'étais abasourdi de même si j'avais dû l'entendre, que toutes les minutes, c'est l'équivalent de 27 terrains de football de forêt en moins, toutes les minutes. Ça, c'est bien le résultat de politiques de grands patrons. Il y a encore certains qui font indirectement, certes, travailler des enfants. Ils disent c'est pas nous, mais en choisissant un sous-traitant
à l'étranger, etc. Ouais.
On peut pas fermer les yeux sur ça. Parlons dans le textile, etc. C'est la réalité. Donc je suis pas machiavélique, je suis désolé. La lutte de classe, ça existe encore.
Si je vous dis nuance, vous me répondez quoi?
Allez, continuez.
Non, dites-moi. Je parle de nuance parce que l'image de la CGT, c'est plutôt celle de la radicalité. Vous êtes d'accord?
Non, oui, l'image, oui, ouais. Mais c'est pas la réalité. Dans tout ce que fait la CGT, elle sait dire non. Elle dit souvent non, la CGT. Et on coupe la phrase à ce moment-là, parce que la CGT, elle dit toujours non, mais voilà ce qu'on propose. Et on coupe toujours la phrase après le non. Et je vais pas vous faire étalage de toutes les propositions qu'on fait. Ouais. Alors, quand on a des propositions, le deuxième réflexe, c'est de dire, ouais, mais c'est pas crédible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une seule solution pour changer la vie des gens, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le débat démocratique. Donc la CGT, elle est radicale quand ça va pas, mais elle sait faire des propositions aussi.
Et l'image d'opposant systématique, de critique systématique, vous la reconnaissez pas celle-là?
Bien sûr. Ouais. J'ai dû le dire à au moins deux présidents de la République, à des dizaines de ministres, le jour où ils nous proposent de la semaine de 32 heures, je suis sûr que je dirais pas.
Mais non. Vous savez qu'ils vont pas la proposer là.
Oui.
Donc, est-ce que vous créez pas de la déception chez vos propres militants, chez les syndiqués? Mais... Comment vous gérez ça en fait? La radicalité d'un côté, on a l'impression que le schéma est toujours le même. Radicalité, conflit, et puis finalement non, vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez.
Dans toutes les entreprises, on commence toujours par une discussion. Malheureusement, la discussion elle s'arrête vite parce que c'est une direction d'entreprise, mais c'est valable avec le gouvernement qui dit c'est ça ou rien. Si c'est ça ou rien, on passe au conflit. Un conflit doit toujours se terminer par une nouvelle négociation. Et plus il y a de monde dans le conflit, plus le résultat de la négociation.
On a l'impression que Henri Krasuki aurait pu me le dire sous Mitterrand, sous Giscard, Chirac, sous Hollande, sous Macron.
Oui, mais d'autres le disaient aussi, certainement. Oui, ouais. C'est la réalité, c'est la réalité. Et si on prend l'histoire sociale de notre pays, c'est toujours quand il y a eu beaucoup de grévistes, de mouvements sociaux, qu'on a obtenu la sécurité sociale, les congés payés, c'est quand même pas mal ça, les congés payés, la sécurité sociale, c'est pas mal aussi. Beaucoup de pays nous l'envient.
Il y avait aussi une volonté politique de créer la sécurité sociale.
Oui, mais c'est d'abord parti, y compris en 68, c'est d'abord parti de conflits, de revendications qui ont donné lieu à des discussions et donc une volonté politique qui a évolué.
Vous parlez des politiques, des présidents. Quels sont ceux avec lesquels vous êtes le mieux entendu? Ceux avec qui vous arrivez à échanger? Peut-être ceux avec qui vous échangez hors des négociations, il y en a ou pas?
Non.
Non?
J'en ai connu que deux, enfin, en tant que secrétaire général.
François Hollande, Emmanuel Macron.
Voilà, c'est ça. Non. Emmanuel Macron, j'ai dû le voir une seule fois en tête-à-tête depuis qu'il est élu. Ça montre la considération qu'il a pour les organisations syndicales. Et François Hollande, je l'ai dû le voir peut-être un peu plus souvent, une fois par an. Mais je l'ai fréquenté que deux ans.
Quand vous y allez comme ça, vous vous dites, tiens, je vais me le faire? Ou c'est quoi votre état d'esprit?
Non. C'est essayer de leur expliquer... Ce que moi j'ai entendu quand je sors d'un déplacement, j'ai le souvenir de ma première rencontre avec Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie, c'était sur France Télévisions. Il expliquait, c'était le brillant ministre de l'économie, il faut faire des économies, je suis le roi, machin. Et la veille, j'avais été dans un hôpital, le Vinatier, hôpital psychiatrique à Lyon, et les filles, parce que c'est des filles, me disaient, tu sais Philippe, faut arriver tôt le matin parce que les budgets sont tellement faibles qu'on lave nos patients avec des chaussettes, et on les essuie avec des draps. Il n'y a pas assez de linge de toilette. Je lui ai expliqué ça au
ministre de l'économie
de l'époque. Au ministre de l'économie qui est président de la République. Je lui ai dit, alors on fait des économies. Non, c'est pas acceptable. Vous voyez? Et je pense que la difficulté qu'on a, et plus ils montent dans la hiérarchie, plus ils ont les pieds qui touchent plus par terre, c'est de les ramener un peu plus sur la vie des gens, quoi. Et je pense que, je ne sais pas ce qu'il faut changer dans la politique, mais plus ils ont de responsabilités, et moins ce genre de problème, ils arrivent à les toucher du doigt. On peut pas être indifférent au quotidien des gens et pas leur répondre quand ils sont confrontés à vraiment à des choses dures comme ça, leur dire oui, mais il faut faire des économies. Oui.
Vous pensez que c'est possible qu'on a vraiment du pouvoir quand on est tout en haut? Est-ce que c'est pas plus compliqué de changer les choses quand on est tout en haut, en fait?
Je pense que oui, on a du pouvoir, mais que oui, et que s'il y a un tel rejet de la politique, c'est que justement les gens constatent qu'ils ont du pouvoir, mais que ce pouvoir, ils s'en servent pas dans l'intérêt général, plutôt dans un intérêt particulier. Et c'est ça qui fait que les gens disent mais ça sert à quoi de voter, ça sert à quoi.
Mais ils ont quand même l'impression, ils ont le sens de l'intérêt général, non ? Vous leur déniez ça ou pas ?
Ah oui, oui. Ouais. Quand enfin, il y a des phrases célèbres. L'État ne peut pas tout. On l'a encore entendu. Quoi, l'État ne peut pas tout. L'État n'est pas capable. Un président de la République face à un grand patron n'est pas capable de taper du poing sur la table et dire moi, je suis légitime. J'ai été élu par mon peuple. Mmh. Maintenant, tu vas faire ça. Moi, je pense que oui. C'est ça faire de la politique. Sinon, les gens ont raison de dire bah, vous servez à quoi ? Puisque dès qu'il y a un mec ou une nana qui a un peu de fric et qui vous dit poupouille, bah, vous faites carpette, voilà.
Et si vous savez pourquoi vous n'y allez pas, pourquoi vous ne lancez pas ?
Parce que j'ai peur de devenir comme eux.
Ah.
Justement, parce que je fais beaucoup de déplacements, j'aime aller au contact, voilà. Moi, je dis toujours aux militants de la CGT, vous avez deux oreilles et une bouche, pensez à ce qui doit servir le plus. Ouais, il faut savoir écouter et connaître un peu la vie des gens. Enfin, beaucoup même.
On va marquer une deuxième pause, Philippe Martinez. Deuxième pause musicale, le temps d'écouter Liberté de Yéli Yéli.
France Inter, hors-piste.
Hors-piste avec ce soir Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, et on écoutait Liberté de Yéli Yéli. Philippe Martinez, quand vous n'êtes pas en train de faire des pancartes ou d'écrire sur des draps, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je me repose, ouais. Et puis j'aime bien aller à la campagne, dans des coins... En Ardèche, c'est un petit coin que j'ai en Ardèche. Regardez, je dis souvent, je regarde pousser les arbres. C'est vachement bien.
Il faut avoir du temps pour ça quand même.
Oui, bah justement, faut savoir prendre son temps.
Et à part regarder pousser les arbres, vos hobbies, c'est quoi ?
Bon, j'essaye d'aller au cinéma, j'essaie de m'intéresser à la culture. J'ai pas beaucoup de temps, mais du fait de mes responsabilités, il y a des camarades du spectacle qui m'invitent à des pièces de théâtre, à l'opéra par exemple. Voilà, j'essaye de renouer, enfin de faire que l'organisation CGT renoue avec son passé de lien entre la culture et le travail. Et on essaye de faire des choses. Je vais au Festival d'Avignon, c'est un endroit passionnant auquel tout le monde devrait avoir accès. Bon, voilà.
Qu'est-ce que vous avez appris avec les années ?
Qu'il faut toujours rester humble et modeste.
Ouais.
Il ne faut pas avoir ni les chevilles ni la tête qui enflent. Ça, je pense que c'est très important. Et pour ça, il faut pas avoir de cours autour de soi.
Ouais.
Voilà. les courtisans, c'est redoutable.
Vous n'en avez jamais eu, vous ?
On en a sûrement tous, mais il faut toujours avoir le camarade ou la camarade ou un proche qui dit « Oh, tu commences à déconner, reviens avec nous.
» Philippe Martinez, c'est l'heure de découvrir l'objet que vous avez emporté pour Hors Piste. Personne n'avait le droit de savoir avant ce soir, alors dites-nous qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est Monsieur Patate qui est en train de se démonter, c'est un jouet. Alors Monsieur Patate est que j'ai sur mon bureau.
Ah d'accord.
Alors il est moustachu.
Comme vous. Il vous ressemble un peu.
Voilà, je savais que ça allait vous faire marrer, parce que moi, ça me fait beaucoup marrer. Et pourquoi, Monsieur Patate ? C'est parce que quand j'ai quitté mes précédentes responsabilités, on me l'a offert.
Ouais.
Vous savez, c'est l'histoire de la patate chaude. Il y en a toujours un qui se retrouve avec la patate chaude, problème à régler. Et souvent, c'était moi. Ça reste encore souvent moi. Et donc, j'ai Monsieur Patate sur mon bureau.
Et lui, il vous rappelle à l'humilité, il vous rappelle...
Ouais, il me rappelle plein de choses.
À l'essentiel.
Ouais, voilà.
Je ne m'attendais pas à Monsieur Patate, je dois dire.
Il est beau, Monsieur Patate.
Il est beau, il a de l'allure. Qu'est-ce que vous dites, et ça sera ma dernière question, à ceux qui ne vous aiment pas, Philippe Martinez ?
Plutôt que d'écouter ce qu'on dit sur les gens, discuter avec eux, et puis après vous ferez une opinion. C'est toujours, comme on dit, l'habit fait pas de moine, vaut toujours mieux discuter avant de se faire une opinion. Les préjugés, c'est toujours mauvais.
Il faut savoir terminer une grève, disait Maurice Thorez en 1936. Il faut aussi savoir terminer une émission. C'est la fin de ce numéro de Hors Piste. Merci beaucoup Philippe Martinez. Merci également à Étienne Bertin à la réalisation, ainsi qu'à Charlotte Leloup à la préparation, Stéphanie Valois et Claire Tesser à la mémoire vive, et Théo Gomard aux manettes. On se retrouvera dimanche prochain à 18h. Philippe Martinez, dans Hors Piste, il y a une règle, et ici on respecte les règles, monsieur. Le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous.
Dernier mot, c'est un extrait d'une chanson de Jean Ferrat qui s'appelle En groupe, en ligue, en procession. Ce qui dit, on peut me dire qu'en ligue, en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une réponse, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste. J'ai un peu écorché le bout de la phrase, mais je trouve qu'elle est géniale.
Et on a compris l'idée. Merci beaucoup, Philippe Martinez. On finit avec un ordre des choix, hein, Jean Ferrat, en l'occurrence. Merci d'être venu dans Hors Piste.
Merci.